le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et Société. Les parcs éoliens offshore sont-ils des projets de développement durable ? Le développement durable suppose de concilier des impératifs écologiques, économiques et sociaux qui ne convergent pas spontanément, y compris quand il s'agit de développer une énergie décarbonée comme l'éolien. Comment concilier des impératifs environnementaux planétaires et européens et des contraintes locales, contraintes environnementales, sociales et économiques? Comment mesurer des impacts, évaluer des dynamiques et mettre en place des systèmes de gouvernance et de compensation équitables et acceptables par toutes les parties prenantes? Nous avons entamé notre réflexion dans l'émission précédente en faisant un état des lieux, état d'avancement des projets, acteurs en présence et législation. Dans ce deuxième numéro, nous nous focalisons sur les conflits potentiels et en cours, les enjeux et la façon de les mesurer et de les nommer. Pour répondre à ces questions, nous avons invité Julien Hay, enseignant-chercheur à l'UBO, économiste au laboratoire Amur, Gaël Guéguin, professeur de droit à l'UBO, juriste au laboratoire Amur, Antoine Carlier, écologue à l'IFREMER au sein du laboratoire d'écologie benthique côtière. La parole à Gaël Guéguin sur le rôle des industriels et des consortiums et sur la façon dont ils réduisent ou non l'incertitude liée à de tels projets de développement.
Les industriels jouent un rôle déterminant, évidemment, puisque l'État se fixe des ambitions, mais il n'a ni la compétence ni la capacité financière de réaliser les parcs en mer. Dès lors, il fait appel à ce qu'on appelle, plus que des industriels, ce sont des consortiums, parce que l'État dit dans ses appels, qu'il s'agisse de l'appel d'offres ou de ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue concurrentiel, il dit aux candidats potentiels, vous devez être équipementier, énergéticien, développeur. Personne n'a ces trois compétences. Donc, en fait, il sait très bien qu'il appelle à la création d'un consortium. Donc, juridiquement, c'est des structures relativement souples. On crée une ESS, personne ne fusionne avec personne, mais on se met d'accord et on crée un business commun. Et donc, vous allez avoir des énergéticiens qui vont se lier à des équipementiers, qui vont s'associer à des développeurs et plus si affinité, et présenter leur candidature. Donc, ce qu'on appelle les industriels, c'est ça, quand même, plus globalement. Et ces industriels ont parfaitement compris qu'ils allaient naviguer dans une zone d'incertitude absolue. Incertitude économique, incertitude financière, incertitude juridique et incertitude en termes d'acceptabilité sociale. Et même, on pourrait dire, incertitude sur le plan écologique, puisqu'on leur dit de venir travailler sur une zone dont on a relativement mal évalué qu'on a mal évalué sur le plan biologique, écologique, etc. Et j'en passe, on ne sait même pas ce qu'il y a au fond finalement. On se rend compte qu'à Saint-Brieuc, on voulait implanter du monopieu et qu'on ne pourra pas parce que le sol ne le permet pas. Et c'est quand même une découverte assez sidérante parce qu'on se dit l'État propose un espace à un opérateur qui va investir 2,5 milliards et il n'est pas en mesure de lui dire ce qu'il va trouver au fond. Et c'est le lendemain des résultats de l'appel d'offres que cet opérateur doit dérisquer ce qu'on appelle son opération, la levée des risques, et qu'il doit là, lui-même, à ses frais, mener des investigations et découvrir qu'effectivement, ce n'est pas possible et dès lors soulever un tollé de contestation parce que les pêcheurs disent notamment que le changement de technologie emporte des conséquences importantes pour eux. Ce qui n'est pas forcément faux, d'ailleurs. Donc, les industriels ont besoin qu'on lève ces incertitudes, mais je crois qu'ils s'habituent à vivre avec. Le marché les intéresse. Enfin, voilà, à part le Tréport qui avait été ressorti en 2011, faute de candidats suffisants, parce qu'il y avait un seul candidat, pour tous les autres, on a une compétition véritablement qui s'opère entre acteurs. Et des acteurs qui ne sont pas uniquement nationaux, puisque dans les consortiums, justement, utilement, comme à Saint-Brieuc, on a un Espagnol qui va s'associer à un Français avec un développeur allemand, etc. Donc, ce sont des consortiums internationaux. Derrière, il y a des fonds d'investissement canadiens, qataris, et j'en passe. Comme ça se passe exactement pareil au Royaume-Uni, hein, où EDF est en pointe sur les parcs aussi, dans les consortiums. Donc les industriels savent que c'est une activité, un business qui est intéressant à terme. Effectivement, le prix d'achat de l'électricité avait été largement sur... le prix retenu en 2011-2013, on est revenu à un prix beaucoup plus raisonnable en 2018.
C'est quoi le prix
et on ne sait pas. En théorie, on sait aujourd'hui quel est le prix que l'État est prêt à mettre, mais ça faisait partie du secret du résultat. Alors ça a été évalué, évidemment, autour de 180 euros. Le mégawatt produit à l'issue des appels d'offres. Et comme on a un retour d'expérience, qu'on a développé la technologie, les technologies au Royaume-Uni, que ça y est, vous l'avez dit, Antoine l'a dit aussi, bon, il y a 6 000 éoliennes qui tournent en mer, on sait les fabriquer, on les fabrique à la chaîne, donc il y a une baisse des coûts, et c'est dérisqué quand même au niveau de la construction en mer, donc le prix baisse fatalement, et on peut arriver aujourd'hui à la moitié. Donc, largement... Donc,
le prix peut encore évoluer, en fait.
Et donc, quand les tarifs ont été renégociés, ça n'existe pas. Quand une entreprise candidate à un marché public, elle propose un prix et une prestation. Et la prestation la plus avantageuse est retenue. Et là, imaginez, le lauréat est retenu sur la base de différents critères, dont le prix d'achat qu'il propose. Et 7 ans plus tard, on lui dit non, ça ne va plus. On revient là-dessus et on va le diviser par deux. Ou presque. Et c'est pourtant ce qui s'est fait. Et ils l'ont accepté, cette révision. Il y a eu des arrangements juridiques, le raccordement, FCRTE qui le prend à sa charge, etc. Mais c'est pas du tout... ça n'allège pas d'autant que la baisse du prix d'achat. Mais donc ils l'ont accepté. Donc ils vivent en pleine mer d'incertitude, mais en même temps, ils y tiennent à ces projets. Ils savent que c'est très important, que ça peut leur apporter aussi de l'argent. Et donc, il y a un vrai enjeu à y être. Voilà. Et derrière, il y a aussi le soutien de la Caisse des dépôts et consignations. L'État français apporte un soutien financier dans le montage des projets. Et la Caisse des dépôts se retire ensuite au bénéfice d'autres investisseurs. Donc, moi, j'ai envie de dire, oui, il y a des incertitudes. Elles sont liées à l'acceptabilité sociale, mais pas que. On réduit le débat à ça, c'est pas vrai. Il y a autre chose derrière. Il y a des enjeux économiques, des enjeux financiers. Il y a beaucoup de contentieux, mais aussi, ils s'y sont habitués. Et puis la plupart des contentieux, de toute façon, aboutissent à des rejets. Donc,
d'accord. Bon, là, on voit les industriels avec leurs sacrés inconnus, malgré tout, et leurs gros moyens aussi. Et leur propre enjeu, c'est intéressant pour plusieurs raisons. Pas seulement l'argent, vous avez l'air de dire, en fait. Ouais. Maintenant, on va se retourner vers les acteurs locaux avec Julien. Donc, quels sont les principaux intérêts économiques aux nuisances mises en avant par les acteurs ou les usagers prenant part au débat? Quels sont les mots d'ordre, les postures, les craintes et les attentes? Maintenant, c'est plutôt des locaux, on va dire.
Oui. Mais en fait, ça va me permettre un petit peu de compléter ce que Antoine a présenté tout à l'heure sur les impacts possibles, tels qu'on les connaît aujourd'hui, avec beaucoup de modestie, mais sur l'environnement, on peut voir donc des EMR sur l'environnement et les parcs éoliens offshore, c'est ce dont je ne peux que parler. On peut aussi regarder, parce qu'on a abordé la question du milieu, mais on peut aussi parler des retombées ou des impacts, des effets. Alors, ces termes sont aussi à distinguer, effets, impacts, sur les activités humaines. Ce qui est sûr, c'est que si on parle de nuisances, on est plusieurs, où il y a beaucoup de personnes quand même à s'interroger, à s'inquiéter légitimement, mais encore faut-il soit juste sur l'impact et se soucier de l'impact potentiel des parcs éoliens sur la biodiversité, sur les écosystèmes qui sont sur lesquels sont implantés les parcs. Au-delà de ces impacts, je dirais sur le milieu naturel que on peut ressentir négativement ou que l'on peut craindre. Il y a tous les impacts sur les activités qui sont directement conduites dans la zone d'implantation. On peut penser aux activités professionnelles de pêche, puisque ces zones deviendront plus difficilement accessibles, voire même interdites d'activités de pêche pour des raisons de sécurité notamment. Donc il peut y avoir effectivement des conséquences de suspension d'accès quand même assez long à certains gisements, par exemple à Saint-Brieuc sur la coquille. Ce qui est intéressant et ce qu'on montre aussi par la littérature, ou en tout cas par les questions qui sont posées par la recherche, c'est des fois ces impacts, comme le disait Antoine, peuvent être positifs, peuvent être négatifs, on les craint souvent comme étant négatifs, mais ils peuvent être aussi positifs. C'est-à-dire que sur la question de quel est l'impact sur l'activité de pêche d'un parc éolien offshore, il y a deux effets dans la littérature qui sont interrogés. C'est un, l'effet récif que tu as mentionné, avec le fait fait que peut-être que des espèces qui n'étaient pas initialement présentes sur la zone vont venir s'installer du fait de la présence désormais de substrats durs en ces parcs. Et puis la deuxième chose, c'est l'effet réserve, le fait que en fait avec un parc, on laisse un petit peu tranquille la faune et la flore marine à cet endroit-là. On va moins l'exploiter, on va moins la pêcher. Elle peut plus durablement s'implanter, plus durablement se reproduire. Et aux alentours de cette zone, à ce moment-là, il peut y avoir une présence plus importante et des captures plus importantes. Alors, ce sont des effets qui sont identifiés. Les effets récifs, DCP, les effets réserves sont des effets qui sont connus et étudiés indépendamment des parcs éoliens. La question est, qu'en est-il en lien avec ces parcs-là? Mais il y a potentiellement des effets bénéfiques de ce point de vue-là. Bien évidemment, sur les activités qui sont exercées sur le lieu même, il y a aussi les activités de transport maritime, bien évidemment, qui vont être contraintes par la présence de ces parcs. Et puis, toutes les activités récréatives qui pouvaient y avoir lieu, puisque ce sont forcément, comme je disais, des zones qui deviennent moins accessibles. Après, si on se déporte un petit peu et qu'on va vers le littoral, tout à l'heure, tu disais, on a clos le paysage, mais on va aborder la question du paysage, puisque quand on parle d'éoliennes terrestres comme marines et offshore, la question du paysage est la question. En tout cas, quand on regarde, quand on étudie les prises de parole et les inquiétudes, c'est avant tout, presque, je dirais, cette question-là qui est mise en avant. Quelle va être l'incidence? En quoi, en fait, l'installation d'un parc ne va-t-il pas gâcher un beau paysage? Et surtout qu'on parle, dans certains cas, quand même, de zones qui sont, ou de régions, de territoires qui sont connus pour avoir des paysages remarquables. Est-ce qu'on ne va pas polluer la vue? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un désagrément visuel de ce point de vue-là? Alors ça, c'est ce qui est intéressant là aussi, c'est la question du paysage a été traitée dans pas mal de papiers au Danemark, où, comme cela a été dit, il y a déjà plusieurs parcs qui sont implantés depuis longtemps. Alors, on voit effectivement que, par des études menées par des économistes, on étudie en fait combien les gens seraient prêts à poser, à payer en plus leur facture d'électricité, pour poser les choses simplement, en échange d'un éloignement supplémentaire des parcs pour avoir une moindre pollution, je dirais, visuelle. Et on voit que quand même, passé une certaine distance, on accepte quand même d'avoir, jusqu'à un certain point, un petit désagrément. On ne va pas non plus payer indéfiniment pour ne plus rien avoir. Et ces travaux-là montrent aussi quelque chose qui est assez intéressant. C'est d'abord, effectivement, vous êtes prêt à payer plus si vous avez une maison en bord de mer que si vous n'êtes pas concerné par ce problème, bien évidemment. Surtout, en fait, vous êtes prêt à payer plus si vous êtes plus âgé plutôt que si vous êtes jeune. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on change soi-même au fil du temps? Est-ce que ça veut dire que les générations plus jeunes ont des préférences, je dirais, ou des réticences différentes des générations plus âgées à cet égard-là? Là aussi, on peut aborder la question. Ça soulève la question des perceptions et puis peut-être de leur modification au fil du temps, au fil de l'âge chez les personnes, ou alors des modifications différentes selon les générations. On peut aussi aborder... la question aussi qu'on entend souvent, enfin la crainte de l'implantation de ces champs sur les activités et sur chez les professionnels littoraux, je parle par exemple du tourisme, notamment les professionnels du tourisme qui pensent que, qui mettent en avant le risque qu'il y ait une moindre fréquentation touristique de la zone en raison justement de la présence de parcs de ce type à vue d'œil. Et là aussi, la littérature est assez partagée à ce sujet-là. Quand on procède à des questionnaires, effectivement, une partie des répondants indique qu'ils ne viendraient pas s'il y avait un parc, en tout cas qu'un parc serait un motif de moindre revenu. Tandis que d'autres disent que clairement, ils viendraient davantage parce qu'il y a une forme d'esthétique, voire même ils seraient prêts à payer pour aller visiter en bateau au plus près et voir un petit peu à quoi ça ressemble avec toute la notion de tourisme industriel. Et des papiers, un papier très intéressant qui avait été fait du côté dans la région de Montpellier il y a une dizaine d'années. Mettait quelque chose qui était quand même assez, assez remarquable comme résultat, en fait. Il montrait que parmi les touristes, en distinguant parmi les touristes, je dirais, locaux, et puis les touristes qui venaient plutôt des pays nordiques, les touristes locaux étaient, eux, exprimaient, en fait, une réticence à la présence de parcs, tandis que les touristes nordiques, eux, étaient au contraire attachés et même plutôt intéressés à cette présence et en faisait un motif de curiosité qui allait certainement les faire venir un petit peu plus. Ce travail, ça a été attelé à montrer quel effet de report ou quelle modification peut-être de la fréquentation touristique ça pourrait avoir sur la région en tant que telle par moins de locaux et plus de nordiques. On pouvait voir que ça pouvait être un levier, je dirais, de marketing un petit peu territorial pour changer l'image de la région sur le plan touristique. Mon propos a été de dire qu'effectivement la question du paysage est celle qui revient le plus souvent, mais que c'est loin d'être unanime et comme je l'ai dit, les perceptions à cet égard sont vraiment très variables selon les individus ou selon les groupes d'individus. Donc les positionnements sont là aussi, il n'y a pas d'unanimité, il y a une très forte hétérogénéité par rapport à ces parcs-là. Et juste pour revenir sur autre chose, tu disais au début, parce que là j'ai répondu sur les nuisances, je dirais, ou en tout cas les craintes, et tu disais au début, le terme, si je reprends, c'était les enjeux ou les...
Enjeux et conflits.
Ou les enjeux, alors j'ai plus, enfin bref, quels sont les bénéfices, j'ai envie de dire, par rapport à ça.
Les mots d'ordre, les postures, les craintes, les attentes.
Les intérêts économiques. Et en fait, là, j'ai juste envie de changer un petit peu de perspective. On parle ici d'impact locaux, en fait, des parcs éoliens. C'est-à-dire les impacts qu'ils vont avoir à la proximité immédiate de leur implantation, sur le territoire qui les accueille. Mais il y a aussi, tout le monde est d'accord, je pense, de tout le monde conviendra que les parcs éoliens ont quand même pour grand mérite de participer à la lutte contre le réchauffement climatique par la décarbonisation. Donc l'intérêt économique, quand même, à ce moment-là, ça dépend de quel point de vue on se place, mais c'est vrai qu'on se heurte avec ces projets-là, typiquement avec, si on les regarde globalement, ils sont intéressants, et si on les regarde localement, on va faire attention à tous les coûts qui sont en général subis localement. Et donc en fait, faut pas oublier de faire, je dirais, ce grand écart entre une focale centrée sur le parc où on va être effectivement très inquiet sur des points très ponctuels. Je dis pas du tout qu'ils sont négligeables. Ils doivent être pris en compte. Mais il faut pas oublier que en fait, l'intérêt quand même de ce type d'installation, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. Et un des bénéfices, c'est de ne pas avoir les retombées négatives du réchauffement climatique, seraient certainement, je pense, plus importantes que les retombées locales ou les retombées même nettes de ces impacts-là. Il ne faut pas oublier ce changement de focale aussi qui est intéressant parce que voilà, on voit souvent. Enfin, sinon, on arrive un petit peu au syndrome Puma, projet utile mais ailleurs, ou NIMBY, not in my backyard. Vous savez, bon, c'est très très bien, mais pour les autres. Mais je suis d'accord d'avoir plus d'éolien, mais pas en face de chez moi. Parce que je peux avoir les bénéfices de l'éolien, à savoir une lutte contre le réchauffement climatique, sans en avoir les désagréments, puisque c'est éloigné de moi. Quoi. Donc ça, c'est un point. Je pense que la dimension multiscalaire du problème est très importante, et aussi pour comprendre la question de l'acceptabilité sociale, c'est une dimension, je pense, qui est à prendre en compte.
Oui, moi, c'est ce qui m'a frappé en premier quand j'ai commencé à étudier le sujet pour vous faire venir ici. Et le problème se pose à l'échelle planétaire et à l'échelle de Saint-Brieuc ou d'un village, avec des obligations internationales, européennes, nationales, et des ennuis, enfin des installations très locales. C'est ça que moi j'aimerais éclairer, en fait, à partir de avec cette table ronde, notamment.
Je ne suis pas en train de dire, par contre, que les coûts sont négligeables et ce qui est local est négligeable.
Tu n'as pas dit ça du tout. Mais
quand même, ne pas oublier quand même cette chose-là.
Non, mais t'as rappelé...
En économiste, on pose la question, s'il n'y a pas, qu'est-ce qu'on a à la place.
Tu as rappelé pas, la focale.
C'est pas avant-après, c'est avec 100. Et avec 100, sans éoliennes ou sans énergie renouvelable, c'est aussi d'autres conséquences négatives qu'on doit aussi considérer. Et la bonne décision, la bonne manière de décider consiste à les regarder les unes face aux autres, quoi, et à trancher.
C'est ça qui est très, très, très complexe, très compliqué. Je vais me tourner vers Antoine Carlier, donc écologue. À propos des mesures des impacts, quels sont les dispositifs de mesure des impacts potentiels sur l'environnement proposés par les industriels ? Est-ce qu'ils en proposent des systèmes de mesure ? Est-ce que les acteurs commencent à mettre en place d'autres systèmes de mesure éventuels ? Par exemple, les hôteliers comptent les gens qui viennent dormir chez eux. C'est une mesure. Pour ce qui est de l'environnement, quels sont les systèmes de mesure déjà en place ou en prévision pour débattre, non pas dans le vide, mais avec des arguments et encore une fois, des instruments de mesure, quoi.
Il y a des mesures de suivi des impacts, il en existe évidemment. Les industriels n'ont pas le choix, en fait. Ils doivent se plier à la réglementation et au code de l'environnement qui impose de faire une étude d'impact réglementaire. C'est-à-dire qu'ils doivent, a priori, avant d'avoir commencé tout travaux, ils doivent essayer d'anticiper quels peuvent être les changements qu'ils vont causer sur l'écosystème. Parce que n'importe quelle activité en mer humaine cause un impact. Le tout est de savoir à quelle échelle quel est le niveau d'impact et puis à quelle échelle ça s'opère. Donc la question de l'appréciation des impacts à différentes échelles est vraiment très intéressante. Alors, comment on fait pour évaluer un impact ? C'est-à-dire, quand je dis impact, c'est un changement dans le fonctionnement des écosystèmes ou alors dans les effectifs des différentes espèces qu'on peut trouver à un endroit donné. Il faut déjà partir de ce qu'on appelle un état initial. Il faut déjà savoir de quoi on part. C'est-à-dire, je vais enlever mon masque, ce sera plus facile. Il faut déjà déterminer quelles sont les espèces en présence sur le site sélectionné, quelles sont les espèces de mammifères qui fréquentent la zone, les espèces d'oiseaux, qu'est-ce qu'on trouve comme habitat sur le fond de la mer à cet endroit-là, et aussi dans quel état écologique le milieu se trouve, parce que malheureusement, il n'y a quasiment plus aucun endroit dans les océans qui est totalement vierge. Donc les écosystèmes sont déjà malheureusement en partie impactés par toutes les autres activités humaines. Donc l'état initial, c'est ça. Il faut dresser un inventaire et puis savoir déjà quel est l'état de santé du système. Et la question de la temporalité là-dedans est très importante parce qu'on a rappelé que le contexte français était un peu compliqué. Ça prenait énormément de temps pour voir arriver les premières installations en mer. Et en fait, quand on fait un état initial, généralement, il faut le faire assez peu de temps avant le démarrage des travaux si on veut espérer vérifier s'il y a un changement ou pas. Or, en France, on a déjà vu des cas de figure où l'état initial était dressé bien des années avant le démarrage de quoi que ce soit. Des fois, c'est 5, 6, voire plus, des fois 8 ans avant le démarrage des travaux. Autant dire que le bilan qu'on a fait 8 ans avant le démarrage des travaux, parfois, il veut plus dire grand-chose quand on a affaire à des écosystèmes côtiers qui changent. Donc ça a parfois obligé à refaire des études préalables au démarrage des travaux pour savoir... pour avoir un bon niveau de référence. Faire un état initial d'une zone marine, on l'a dit, ça, c'est pas trivial parce que finalement, on connaît assez mal le milieu marin. Surtout quand on s'éloigne de plus en plus des côtes, on connaît le fonctionnement des écosystèmes relativement bien, très proche des côtes ou dans des zones qui ont fait l'objet de grands chantiers de recherche pendant plusieurs années. Mais il y a certaines zones ciblées par les appels d'offres qu'on connaît très mal où on a fait certaines campagnes océanographiques ou scientifiques bien des années avant et où il est absolument nécessaire de refaire un état des lieux. Et puis pour certains compartiments biologiques, je pense aux mammifères ou aux oiseaux marins, en fait l'état initial qui a été dressé dans le cadre des appels d'offres et d'éoliens en mer, je pense a permis de faire progresser pas mal l'état des connaissances fondamentales parce qu'en fait on n'avait pas plus de raison que ça d'aller mesurer le taux de fréquentation des diverses espèces d'oiseaux marins très au large. Et finalement, à l'issue de tous ces travaux-là, on finit par accumuler une masse de connaissances assez intéressante. Donc après, une fois qu'on a fait cet état des lieux, bah, il s'agit de mettre en place, enfin, d'imaginer une stratégie de suivi tout au long de la vie du projet, c'est-à-dire sur les 25 ans, pour voir si, pour s'assurer qu'on ne va pas, causer des bouleversements sur l'écosystème. Alors, la question justement de l'échelle spatiale, elle est intéressante parce que si on regarde les choses à toute petite échelle, c'est-à-dire à l'échelle du mètre carré qui va être écrasé par la fondation d'éoliennes, bah, il est évident que là, l'impact, il est radical. On va supprimer une partie d'un habitat sableux ou d'un habitat à fond meuble avec des invertébrés caractéristiques de cette zone par une fondation en béton ou une fondation métallique qui, en fait, va s'apparenter à un fond dur sur lesquels vont venir s'installer des espèces complètement différentes à affinité. Si on parle des invertébrés benthiques du fond de la mer, on n'a pas du tout les mêmes cortèges d'espèces sur des fonds meubles ou sur des fonds durs. Donc, à toute petite échelle, l'impact est grand. Mais dès qu'on s'éloigne, dès qu'on dézoome, on peut s'apercevoir qu'en fait, les changements deviennent relativement mineurs hein, dès qu'on s'intéresse au fonctionnement global d'une baie ou d'une masse d'eau relativement grande, comme la Manche Est ou la Manche Ouest ou la baie de Saint-Brieuc même. Donc l'échelle est extrêmement importante. Et en fait, ce qui ressort des acquis, des suivis qui ont pu être faits en Europe du Nord, c'est que très souvent, on note des changements, des impacts relativement localisés. Pour ce qui est des invertébrés qui peuplent le fond de la mer, les impacts, ils sont très locaux. Ils sont observables à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres des fondations d'éoliennes. Pour le bruit, pendant la phase de construction, ça peut être des effets à plus large échelle. On sait que les mammifères vont s'éloigner de la zone de travaux de plusieurs dizaines de kilomètres parfois. Jusqu'à preuve du contraire, c'est des effets qui sont réversibles. Donc les mammifères reviennent fréquenter la zone une fois que les travaux sont terminés. Ça reste, que ce soit aussi pour les effets des raccordements électriques, des champs électromagnétiques, les changements d'hydrodynamisme dans le sillage des fondations d'éoliennes, tout ça sont généralement des effets assez localisés dans l'espace. Et pour ce qui est de l'effet sur la ressource halieutique et les poissons, qui est quand même une des questions importantes que posent souvent les pêcheurs, là, les études montrent que globalement, dans le périmètre des parcs éoliens, la densité de poissons ne change pas. Et en fait, ce qu'on observe, c'est parfois une augmentation de la densité des poissons, mais très proche des éoliennes. Donc encore une fois, il y a un effet d'augmentation de la biomasse ou des densités de poissons, mais qui s'observe à quelques dizaines ou 50 ou 100 mètres de l'éolienne, de la fondation de l'éolienne. Et ensuite, dès qu'on s'éloigne sur des distances plus grandes, en fait, on retrouve les niveaux de fréquentation qui avaient lieu avant l'installation du parc éolien. Donc ça permet de dire que l'existence d'un parc éolien ne fait pas fuir le poisson. C'est une première réponse aux gens qui se posent la question de l'impact sur la ressource halieutique. Et on a parfois une augmentation des densités très, très, très proche des fondations. Ensuite, il s'agit de savoir si c'est un effet d'attraction des espèces qui fréquentaient déjà la zone ou est-ce que c'est un réel effet d'augmentation du stock des poissons. Ça, c'est un débat qui n'est pas encore tout à fait tranché dans la communauté scientifique.
Bien, avant de passer à la troisième partie, de vous passer la parole aussi, il y a Gaël qui suggérait de préciser les choses sur la relation entre les modalités de dialogue et les connaissances, l'état des connaissances scientifiques, c'est ça, hein ?
Oui, on a déjà parlé de concertation, puisque j'ai parlé du débat public, etc. Bon, bref. Mais ce qui est très important, je pense, à souligner, c'est qu'au moment où la CNDP est saisie pour organiser un débat public,
CNDP.
La Commission nationale du débat public, oui. Qui désormais, avant qu'on lance les appels à candidature, donc les appels d'offres, est saisie. Donc, c'est plus cohérent depuis 2018. Mais quand elle est saisie pour organiser un débat public ou que dans les projets qui ne relèvent pas du débat public parce qu'ils ne sont pas suffisamment grands, elle organise une concertation avec Garant, ces réunions ont lieu sans qu'on n'ait aucun élément sur les impacts du projet véritablement. Parce que l'étude d'impact dont parle Antoine, il y en a deux. Il y en a une qui intervient dans le cadre de l'autorisation environnementale unique, donc qui est une des deux autorisations que le porteur doit solliciter. L'autorisation environnementale, elle lit en une seule demande présentée à une seule administration toutes les contraintes environnementales, enfin toutes les règles à respecter, hein, la loi sur l'eau, les espèces protégées, etc. Et donc là, dans ce cadre-là, on va avoir une étude d'impact, effectivement, et l'autre, c'est l'autorisation domaniale, donc la concession, et dans ce cadre, il y a aussi une étude d'impact à réaliser. Mais le problème, c'est que tout cela intervient, en fait, après le débat public, après l'appel à projet. Et donc, quand on expose le projet, finalement, aux citoyens, aux associations, aux élus, etc., en réunion, aujourd'hui à Oléron, demain, je ne sais où, eh bien, on a assez peu de matériaux à leur communiquer, assez peu de connaissances, finalement, l'impact réel, l'impact du projet, l'état de la faune, de la flore, etc., l'endroit où... Et c'est vraiment ce qui était dit ce matin, là, quand j'assistais à 11 ans, donc ce bilan de 11 ans de débat public. Autant Chantal Joanneau, donc la présidente de la Commission nationale du débat public, que M. Lehenvic, qui est le président de l'autorité environnementale, qui lui est saisi également pour avis, disait... on est un peu dépourvu parce qu'effectivement, on n'a pas d'étude d'impact finalement. Et cette étude des impacts, en tout cas cette évaluation de l'état de l'environnement, devrait vraiment être portée à la connaissance du public. Donc, elle devrait être développée en amont. Et peut-être que l'État devrait aussi... Parce que désormais, c'est l'État qui assure également la prise en charge de ces études, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, comme ce n'était pas le cas, eh bien, il y avait un vrai problème.
Qui prenait son charge avant ?
Il y avait un vrai, les porteurs de projets, les maîtres d'ouvrage. Et donc, il y avait un vrai problème de méthodologie. C'est ce qui a été souligné. À chaque projet correspondait une méthodologie. Et donc, voilà, c'est pas que c'était mal fait, c'est qu'il n'y avait pas la même méthodologie. Donc, c'était compliqué de comparer les effets. Et donc, ce que souhaiterait autant l'autorité environnementale que la CNDP aujourd'hui, c'est que ces études soient sérieusement menées avec l'appui d'Ifremer ou autre, j'imagine, en amont, donc avant le débat public, pour qu'on puisse sérieusement, lors du débat ou de la concertation, partir sur de la connaissance, quoi, sur la zone. Et comme le débat public vise justement à définir au sein d'une vaste zone l'endroit précis où on va implanter le projet, on saurait que là, il y a un risque, là, il y a moins de risques, etc. Ça serait plus intéressant. Et en Méditerranée, c'est le sujet. Le débat public EOS qui lie le parc de Fos-sur-Mer en flottant et le parc du golfe des Lions, donc celui. Donc c'est un débat, enfin une concertation avec Garant pour deux espaces. Eh bien, ce qui a été vraiment souligné, c'était ça, cette absence, notamment sur les oiseaux. Une vraie inquiétude pour les oiseaux de la zone et pas assez de connaissances sur. Donc voilà. Voilà ce que je.
Ok, c'était important, très important.
Les questions et les remarques du public. La parole à Paul Triguer, océanographe.
Peut-être une petite différence par rapport à ce que disait Antoine, c'est-à-dire que l'état des lieux doit être fait le plus près possible de l'événement. Je ne partage pas du tout ce point de vue, je vais prendre un exemple. Quand en mars 1970, excusez-moi, c'est l'âge, c'est la vieille barbe qui parle, nous est arrivé les vagues de la Mococadix sur les plages et les abeurs, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'observation continue. Et donc, mon collègue Michel Guémarec, etc., et ses étudiants, est allé sur place faire l'inventaire aussitôt que possible. Quoi. Mais ce que nous apprenons de l'océanographie, c'est que mobilis immobile, l'océan est immobile. Hein, et donc, en fait, nous sommes dans un milieu fluctuant. Ce n'est pas un hasard si le nom du laboratoire d'excellence qui existait il y a quelque temps, là, s'appelait Changing Ocean, l'océan dans le changement. D'autant que nous sommes dans une situation d'évolution climatique caractérisée. Par conséquent, il est essentiel d'avoir des stations d'observation sur les sites qui nous permettent de voir si l'observation, la perturbation observée, résulte d'une évolution sur le long terme, avec des fluctuations positives, négatives, ou bien si c'est un impact réel, une perturbation tropique caractérisée. Donc, au contraire, je trouve que plus tôt l'observation est lancée, donc plus tôt nous avons la dimension temporelle. La dimension temporelle est absolument essentielle dans tous les projets. Quoi. Alors, juste une petite intervention sur la notion de paysage que Julien a souligné tout à fait justement. La notion que nous avons, nous, de l'acceptabilité des paysages, peut-être qu'il faudrait la mettre en perspective, je dirais, à l'échelle de notre espèce, Homo sapiens. Nous avons, au départ, évolué. Nous étions ici dans un milieu qui était essentiellement forestier. Nous l'avons déforesté pour plein de raisons, y compris pour avoir de l'énergie. Nous avons créé des espaces agricoles, des espaces urbains, des espaces industriels tout à fait perturbants. Alors, si j'étais dans le Nord, les terrils, etc., etc. Donc, nous sommes dans des notions de paysage qui sont relatifs. Et peut-être, tout simplement, nous sommes rentrés, c'est quelque chose que l'on devrait réaliser, dans une évolution des paysages de l'après-énergie fossile. Voilà ce que je voudrais juste pour mettre en perspective le débat.
D'accord. Passez le micro à votre voisin. Vous pouvez vous présenter le voisin, parce que vous êtes chercheur, en fait.
Non, moi, je suis en retraite.
Oui, oui, mais vous avez été chercheur.
Moi, j'étais chef de projet énergie marine renouvelable à l'IFREMER pendant jusqu'à ma retraite.
Bon, voilà,
okay. J'ai vécu toute l'histoire depuis 1980, je dirais. Okay. J'ai trois commentaires. Le premier, par rapport à ce que disait Gaël Guéhin sur les coûts, la réduction des coûts. En fait, il y a deux paramètres qui ont évolué à la surprise de tout le monde, de tous les experts. Les coûts ont baissé drastiquement grâce à deux choses. Grâce à l'effet d'échelle au niveau des machines. Le premier parc industriel, on dirait, d'éolien offshore, il est au large du Danemark. Ce n'est pas celui de Vindeby, c'était déjà les tout premiers projets. Mais vraiment industriel, c'était des machines de 2 MW, 2000, en 2000. Actuellement, les machines qui sont en test, c'est les futurs parcs, c'est 14 MW. On a multiplié par 7 la puissance unitaire. Et donc, la réduction des coûts, il y a un effet d'échelle. Et la deuxième chose, c'est le dérisquage dont parlait Gaël Guéhin. Ça a joué sur l'ingénierie financière. C'est-à-dire que les banques, les assurances, elles y allaient beaucoup plus facilement. Et donc, tout ça, ça contribue à réduire les coûts. Sur les aspects paysages, j'ai une inquiétude, je ne vous cache pas. J'ai eu la chance... d'aller me balader au sein du parc de Saint-Brieuc, de Saint-Nazaire en construction. Quand on est au cœur du parc, on voit bien la côte. Mais quand on est sur la côte, on voit bien le parc. Et c'est même très surprenant parce que actuellement, ils sont toujours en train d'installer les fondations et les pièces de transition, mais il n'y a pas encore d'éoliennes. Mais ce qui dépasse actuellement du niveau, enfin, ça dépend de la marée, mais c'est en gros 25 mètres. Il y a une pièce jaune qu'on voit, une pièce de transition, elle fait 25 mètres. Et moi, j'ai un copain, un ancien que Antoine connaît bien, Claude Augry, qui habite dans le coin, il m'a dit, mais je les vois bien de la côte, les trucs. Mais ce qu'on oublie, non, ce qu'on n'oublie pas, c'est qu'il y aura 100 mètres au-dessus quand il va y avoir la machine. Et donc, là, je suppose que ça va... Il va y avoir des réactions. Je vois que les opposants de Saint-Brieuc, ils vont venir certainement en cortège pour montrer, ah oui, on vous l'avait bien dit, etc. Et ça, moi, j'ai une inquiétude parce que je pense que ça va être exploité. Ça,
ouais. Oui, forcément.
Et le dernier point, c'est par rapport à ce que monsieur disait, Julien Rey, c'est que c'est aussi culturel, en fait, l'acceptabilité. Ouais. Les Allemands, ils ont plein d'éoliennes à terre. Les Danois, vous baladez au Danemark, vous passez une colline, vous revoyez. C'est vraiment culturel. Et nous, c'est pas encore là. Et peut-être que quand il va y avoir des parcs en mer, peut-être que cette acceptabilité va peut-être arriver. C'est la peur du nouveau, etc.
Oui, moi, je n'ai pas d'avis, hein, mais il faudra peut-être un sociologue. Oui,
pour aller dans ce que vous dites, effectivement, en France, hein, y a pas encore de parc, donc on ne peut pas encore se prononcer. On est face à une crainte de quelque chose qui n'existe pas. On n'a pas encore l'expérience, comme dans notre pays, d'observer cela. Et moi, j'ai vu mon premier parc il y a quelques années au nord du Pays de Galles. J'ai pas été. Enfin, voilà, c'est surprenant, effectivement. C'est assez surprenant à voir, surtout que c'était très, très proche des côtes. C'est pas disgracieux. C'est même, je dirais, géométrique et plutôt apaisant. Enfin, en tout cas, ça, moi, ça, voilà. Mais c'est vrai que oui, ça fait quand même, ça fait quelque chose d'en voir. Mais on est vraiment sur des représentations. Et alors, nous, ce qu'on avait vu juste dans le papier, et ce qui nous avait vraiment marqué, c'était en comparant en fait les prises de parole sur quatre projets de parc, les prises de position étaient stéréotypées. C'est-à-dire, il y avait très très peu de variabilité d'un site à l'autre. Les catégories d'acteurs émettaient à peu près les mêmes craintes, prenaient les paroles dans les mêmes proportions, sur les mêmes sujets, à peu près la même chose. On pouvait voir des effets un peu plus fins de spécificité d'un site, mais on voyait quand même que les prises de parole reflétaient à peu près les mêmes perceptions sur quelque chose que personne n'a vu, ou très peu.
Ça veut dire quoi? Que c'est les mots d'ordre, alors?
Je ne sais pas, non, je ne sais pas. Ou alors c'est peut-être un imaginaire collectif, en tout cas, qui s'exprime directement à travers cela. Je ne sais pas, non, je ne sais pas, mais en tout cas, on le voit dans ce travail-là, c'est ce qui ressort. Après, ça questionne, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais ça ressort.
Il y a une question juste derrière, oui.
Alors du coup, je change de question.
Donc vous, c'est les petits débrouillards, c'est ça?
Oui, enfin, je pourrais expliquer après, mais juste je rebondis que vous avez mentionné donc la durée, la grande expérience de l'Europe du Nord sur l'éolien marin. Et donc la question qui est peut-être naïve, parce qu'il y a des problèmes de langue, j'imagine que de faire des verbatims du danois, ça doit pas être... Est-ce que cette question de l'acceptabilité paysagère, est-ce qu'il y a eu des études de fait sur comment on l'était à l'origine des... quand il n'y avait pas de parc, je ne sais pas, dans la... au large du Jutland ou de la Hollande, est-ce que les citoyens danois et, ou allemands étaient aussi opposés ou pas du tout opposés? Ou il n'y a pas d'études du tout, on ne sait pas.
Je ne peux pas vous répondre à cette question, faute d'avoir étudié un corpus similaire. Ce qui est sûr, c'est que la question paysagère est une question qu'on retrouve chez beaucoup de chercheurs sur ces questions-là, quels que soient les pays. Donc ça fait vraiment partie de, je dirais, une des questions essentielles, hein, sur des impacts des éoliennes, offshore en particulier. C'est vraiment la question la paysagère qui ressort le plus souvent. Alors peut-être qu'il y a un effet dans la recherche, un effet lampadaire. On recherche toujours la même chose parce qu'on connaît, et puis on peut aussi approfondir, voilà, et peut-être qu'on exagère de ce point de là et on donne un peu trop de résonance à cet enjeu-là. Mais en tout cas, il est pas spécifique à un pays, il est vraiment, on le retrouve quel que soit le continent, quels que soient les pays.
Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et sociétés.